Alors, moi, je vais vous faire une présentation des données préliminaires sur le plan démographique et des caractéristiques un peu générales des patients qu'on a protocolisés jusqu'ici. Alors, je ne suis pas statisticienne et j'avoue que je n'ai pas vraiment fait d'efforts sur mes graphiques. Je n'ai pas changé les couleurs. Vous verrez, ce ne sont que des camemberts bleus et rouges. Parfois, il y a un petit peu plus de couleurs, mais bon. En tout cas, l'idée, c'est donc de vous présenter un petit peu où on en est et qu'on puisse dégager quelques tendances sur les premiers patients rencontrés. Donc, une étude multicentrique, et donc on a donc, sur nos trois centres recruté 42 patients, 29 à Paris, 7 à Saint-Étienne et 6 à Lyon. Et donc, je me suis permise au début de faire quelques comparaisons quand même entre les centres, puisqu'a priori, en discutant entre nous, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément la même cohorte. Alors, en termes de répartition sur le sexe, donc on a plus de filles que de garçons actuellement, sur une répartition qui semble assez attendue, je dirais, quand on parle des douleurs médicaments inexpliquées. Avec un âge moyen, tout centre confondu, d'à peu près de 13 ans. Les garçons qui sont légèrement plus jeunes que les filles. Et effectivement, alors bon, certes, il y a moins de patients à Saint-Étienne et Lyon qu'à Paris, qui ont été vus pour le moment, mais en tout cas, la moyenne d'âge à Saint-Étienne est quand même beaucoup plus élevée que celle de Paris. Alors, quand on parle d'âge, puisque justement, on va essayer de situer les difficultés rencontrées dans le cadre des douleurs chroniques par rapport à la puberté et par rapport au processus pubertaire et chez l'adolescent et le préadolescent. Et finalement, quand on regarde les stades pubertaires des patients qu'on a rencontrés, on voit qu'ils se répartissent majoritairement sur les extrêmes, c'est-à-dire soit sur le stade 1, qui est le stade prépubertaire, ou alors majoritairement pour des adolescents qui, eux, ont bien engagé, voire terminé leur puberté. Au niveau des antécédents personnels, et ça va reprendre un petit peu ce que disait Bernard Gold tout à l'heure, sur les traces et sur la pré-symbolisation selon la théorie de Roussillon. Et finalement, bon, de façon là très rapide, on a exploré s'il y avait eu des événements particuliers en période néonatale pour les patients rencontrés, s'il y avait eu des périodes douloureuses, aiguës ou chroniques au tout début de leur vie. Et finalement, on voit que voilà, sur le premier recueil qu'on fait, on a 93% quasiment de patients qui n'ont aucun antécédent particulier sur le plan néonatal, sur le plan médical. Par contre, et on l'a abordé tout à l'heure, on parlait des antécédents familiaux de douleurs chroniques. Et là, on a plus de la moitié des patients qui rapportent des douleurs chroniques dans la famille, tout en sachant qu'on a surtout exploré les degrés proches, donc les parents, les grands-parents, les frères et les sœurs. Ensuite, donc, au niveau des familles qu'on rencontre, c'est vrai qu'à Paris, nous, on a été étonnés de voir à quel point on rencontrait énormément de familles nucléaires avec des parents en couple, mariés, plusieurs enfants. Donc, on a 76,2% de nos familles avec des parents qui sont en couple, et ce qui, a priori, n'est pas du tout représenté sur la cohorte de Saint-Étienne et de Lyon. Et donc, d'ailleurs, là, voilà, j'ai séparé finalement les deux. Donc, à Paris, on a 82% de nos familles qui sont venus avec les parents qui s'entendaient plus ou moins bien, mais en tout cas qui étaient ensemble. Et par contre, donc à Lyon et Saint-Étienne, là, on voit que la répartition, elle est un peu plus homogène et je pense plus représentative de la population générale. On a bien le sentiment, nous, dans notre centre de protocole, que finalement, nos patients ne sont pas très représentatifs de la population générale. Alors, en termes de catégories socioprofessionnelles, je me suis fait la remarque hier en mettant les données que donc les mamans sont plus diplômées hein, que les papas. Voilà. Puisque donc, sur la catégorie 1, c'est donc ces bacs plus 5, 6 et plus. Et la catégorie 6, c'est le niveau sans qualification. Et donc, effectivement, on voit bien que... Et là encore, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de parents surdiplômés dans notre cohorte à Paris. Et ce qui n'est là encore, là j'ai pas fait le comparatif, mais ce qui n'est pas le cas sur Lyon et Saint-Étienne. Alors, en termes de fratrie, donc j'ai essayé de classer les patients entre les enfants uniques, ceux qui sont aînés d'une fratrie, ceux qui sont juste aînés d'une fratrie de 2, c'est pas pareil que d'être l'aîné d'une fratrie de 3, 4, 5, ceux qui sont les plus jeunes de façon générale, ceux qui sont les plus jeunes sur une fratrie de 2, et ceux qui sont plutôt au milieu de la fratrie. Et on voit que finalement, ceux qui sont le plus représentés dans notre population, ce sont les petits. Et surtout les petits dans une fratrie de 2 enfants. Alors après, on verra quand on aura nos 60 patients attendus si nos résultats sont significatifs ou pas. En termes de scolarité, nous avons la moitié de notre population qui est scolarisée au collège. Puis après, ça se répartit un quart au niveau du primaire et du lycée. Et si on regarde vraiment par classe, on voit 2 pics. En CM2 et en troisième, ce qui correspond à chaque fois à une fin de cycle. Et donc peut-être que voilà, on pourra dégager à un moment donné une tendance et une période tout à fait charnière à ce moment-là pour nos jeunes patients. Tout à l'heure, Anne-Marie faisait référence donc au niveau cognitif de nos patients, qui effectivement, comme ça, de prime abord, on verra avec Michael ce que ça donne pour les bilans psychométriques. Mais en tout cas, ils ont en général un niveau scolaire tout à fait honorable. Très peu ont redoublé. Ils rapportent une moyenne générale plutôt de 15 de moyenne, ce qui est plutôt bon. Par contre, bon, sans surprise, il y a 64% de patients qui ont un absentéisme. Certains qui sont même déjà scolarisés au CNED, d'autres qui sont tout à fait déscolarisés. Et puis donc finalement, on n'a que 26% de notre cohorte qui n'est pas du tout déscolarisée et qui ne voit pas, qui n'a pas un absentéisme déclaré. Et cet absentéisme, donc là j'ai dans le deuxième camembert, là je n'ai gardé que les patients qui déclarent un absentéisme scolaire. La majorité a quand même un absentéisme assez important, supérieur à 20 jours. Dès que ça démarre, j'ai l'impression quand même que ça augmente très rapidement. Beaucoup ont des aménagements scolaires dans le cadre de PAI ou de PPS. Alors, je les ai cités. Ils ne sont pas tous représentés avec la même intensité. Donc, certains sont au CNED, d'autres ont une AVS, d'autres utilisent l'ordinateur, le tiers-temps. D'autres donc, sont scolarisés en CMPA, centre pour adolescents, ou d'autres bénéficient des services d'aide pédagogique à domicile, et puis après des petits aménagements comme les casiers, les livres en double, surtout pour les douleurs dorsales, ou des horaires aménagés. Les dossiers MDPH, on en parlait tout à l'heure, on ne sait pas trop justement s'il faut les faire ou pas pour ces patients-là, et à quel moment du soin on arrive à en faire des demandes, à faire des demandes d'aide. En tout cas, pour nos patients, il n'y a que 26% de notre cohorte qui bénéficie d'une aide d'une reconnaissance par la MDPH, avec, donc on retrouve les aménagements, plus aussi les allocations, la carte d'invalidité. On a des patients qui ont déjà la carte. En termes de nature de symptômes, donc on parle de douleur, mais finalement, on a vu aussi, dans les patients qu'on rencontre, on a des patients qui ont mal différemment. Alors, on a beaucoup de céphalées. J'ai mis en gras les patients les douleurs les plus représentées. Les douleurs musculo-squelettiques, les douleurs diffuses et les douleurs abdominales avec les céphalées sont les plus fréquentes. Et les localisations que l'on retrouve sont tête et ventre, céphalées, douleurs abdominales. Et puis après, les pieds, le dos, les genoux, les bras, la cuisse. On a un patient qui n'avait mal qu'à une seule cuisse, les jambes, etc. La durée d'évolution est en général très importante. Au moment où on les rencontre, c'est un des biais de notre projet, c'est qu'on les rencontre à un moment du soin et certains sont en fin de, en tout cas sont ont abouti à Necker ou sont arrivés à Necker après un long parcours un long parcours médical et d'enquête et puis d'autres que l'on voit plus tôt. Alors, est-ce que ça va changer le pronostic? Mais en tout cas, on a 41% de nos patients qui ont une douleur qui évolue depuis plus de 3 ans. Et donc, j'ai mis qu'au maximum, on a un enfant qui nous a dit qu'il avait mal depuis toujours. Et puis, la durée minimale d'existence de symptômes douloureux est de 4 mois. 59% des patients ont été hospitalisés pour l'exploration de leur douleur. Là, je n'ai mis que les hospitalisations qui ont eu lieu au moment où le symptôme douloureux est apparu et où quelqu'un a estimé qu'il fallait faire une hospitalisation pour faire des examens complémentaires. Donc, c'est un petit peu plus de la moitié de notre cohorte et le nombre de soignants rencontrés. Donc là, on voit effectivement un grand pic entre 4 et 8 soignants, 4 et 7 soignants en moyenne. Et puis après, on a des cas vraiment pathologiques. À l'extrême, une patiente dont les parents avaient consulté 22 personnes différentes au sujet des douleurs de leur enfant. Alors dans ces chiffres, j'ai rentré tous les soignants médicaux et paramédicaux. Voilà, tout avis demandé au sujet des douleurs. Donc ça peut être des ostéopathes, des kinés, des rhumatologues, des neuropédiatres, des psychiatres, des psychologues, alors et après les médecines parallèles aussi, j'ai mis aussi dedans. Mais il y en a finalement peu. Moi, j'ai trouvé par rapport... Alors, parfois, les parents ne le déclarent pas. Hein, le rendez-vous chez le magnétiseur, il passe à la trappe. Donc en moyenne 6,69 soignants consultés. Alors quand on voyait les patients le jour du protocole, on leur demandait là, à combien tu as mal, donc sur une échelle numérique. On s'était fait la remarque la dernière fois avec Michael, c'est que, alors il déclare une douleur au moment du symptôme, mais en tout cas sur les 29 patients qui ont été rencontrés, à aucun moment la douleur n'a empêché la passation du protocole qui pourtant dure une journée entière. On voit qu'il y a une répartition assez homogène ou en tout cas disparate des évaluations douloureuses par nos patients avec donc des douleurs qui sont plutôt évaluées autour de 3, 4, 5, 6, 7. On demandait également quelle était la douleur moyenne sur la dernière semaine écoulée. Et donc là encore, on a une répartition qui ressemble d'ailleurs à celle de la douleur déclarée au moment du protocole. On demandait également la douleur minimale sur les 7 derniers jours et on voit qu'il y a beaucoup de zéros et que finalement, parmi les patients qu'on rencontre, il y en a en tout cas une certaine, alors c'est pas une majorité, mais en tout cas un certain nombre qui ne déclarent pas avoir mal tout le temps et qui peuvent dire qu'il y a des moments dans la semaine où ils n'ont pas mal du tout. La douleur maximale, donc voilà, qui peut monter jusqu'à 10, et puis donc voilà, j'avais déjà fait la douleur minimale. En termes de soins, on a essayé de regarder un petit peu qu'est-ce que les familles avaient essayé en dehors des soins médicamenteux. Et donc voilà, je les ai tous listés. Donc on voit que ceux qui sont le plus essayés, c'est le repos, le sommeil, l'utilisation de la télévision, des consoles de jeux vidéo, tout ce qui est distraction, on en a parlé ce matin, on sait que ça fonctionne. La compagnie d'amis, des massages qui sont en général... prodigué par des membres de la famille, papa ou maman, les applications de froid et de chaud, les rendez-vous chez le kiné, la balnéothérapie, les techniques de relaxation, hypnose finalement, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup plus, l'acupuncture et puis certains patients qui nous disent qu'ils s'étirent ou qu'ils font des flexions pour soulager leur douleur. En termes de traitement médicamenteux, alors ça, je pense qu'il y a aussi des habitudes de prescription entre nos différents centres, entre Brigitte Charron, Chantal Delafosse. Je pense que voilà, chacun a ses habitudes. En tout cas, bon, une utilisation majoritaire du paracétamol, des anti-inflammatoires, de la codéine, du tramadol et du laroxyl. Donc, on utilise énormément. Et puis après, on voit du rivotril. Il y a aussi des antidépresseurs, le Cymbalta, pas mal utilisé. La mélatonine, qu'on utilise de plus en plus. Et le TENS voilà, que j'ai mis dedans mais qui n'est bien évidemment pas un traitement médicamenteux. Les symptômes associés, donc là on voit, puisque nous notre idée c'est qu'il y a quelque chose derrière ces douleurs, c'est notre idée à tous je pense dans cette salle. En tant que psychiatre, on est souvent à la recherche d'une symptomatologie anxieuse, dépressive, voire les deux. On voit que les familles, et pourtant souvent elles ne sont pas forcément très preneuses hein, de l'idée psychogènes de leurs symptômes, mais ils déclarent quand même majoritairement la présence d'une anxiété, la présence d'une tristesse, la présence de troubles du sommeil, on va y revenir tout à l'heure, la présence de troubles scolaires hein, qui sont visibles ne serait-ce que quand on regarde la fréquentation scolaire, des troubles physiques, beaucoup de changements de caractère, d'énervement, des enfants qui deviennent plus colériques, qui sont plus inquiets aussi. Et donc on voit que finalement, on arrive quand même à accéder à ces symptômes, et finalement si on regarde juste cette liste-là, on se dit bah oui, il y a quand même un problème pour qu'ils aient tout ça. Le sommeil, donc on en parlait tout à l'heure et on ne savait pas trop justement si c'était enfin, je pense que c'est les études ultérieures qui nous aideront dans cette voie-là, mais il y a l'idée peut-être quelqu'un qui dort mal va développer plus facilement des douleurs chroniques, ou qu'à l'inverse, des douleurs chroniques vont avoir bien évidemment une influence sur la qualité de sommeil. En tout cas, je pense que c'est une piste, c'est un abord thérapeutique important à avoir et c'est quelque chose qu'il faut absolument explorer avec ses enfants. Déjà, 71% se plaignent d'insomnie dans notre cohorte, 61% se plaignent de réveil nocturne. On a quand même 28% de notre cohorte qui fait du co-sleeping, ce qui voilà, n'est pas à la norme. Et d'ailleurs, c'est ceux qui déclarent le mieux dormir parmi nos patients. Hein. Eux, quand on leur demande d'évaluer la qualité de leur sommeil, elle est bonne, voire très bonne. Donc on peut se dire que finalement, si tout le monde se laissait aller, tous ces patients, et si les parents acceptaient, probablement qu'ils dormiraient tous avec leurs parents. 85% se plaignent de fatigue diurne, quel que soit le degré d'insomnie, quel que soit le nombre de réveils nocturnes. Finalement, la quasi-totalité de notre cohorte se sent fatiguée la journée et l'attribue à un trouble du sommeil. Et par contre, c'est vrai qu'en termes de qualité de sommeil, quand on leur demande juste de nous dire s'ils la trouvent de très bonne à très mauvaise, eh ben voilà, on va avoir quand même une majorité d'enfants qui vont nous dire que leur sommeil est plutôt bon, correct ou moyen. Alors voilà pour le sommeil. Pour le contexte de vie, on a essayé de regarder un petit peu ce qui se passait du côté des amis, du côté de la famille, des relations. 94% estiment qu'ils ont une vie sociale tout à fait satisfaisante avec leurs amis, qu'ils en sont contents, qu'ils ont suffisamment d'amis à leur goût et que la qualité de ces relations est plutôt bonne. Donc ce ne sont pas des enfants qui s'estiment rejetés, qui s'estiment harcelés, quelques-uns, mais en tout cas pas dans leur vie amicale. Ce sont des enfants qui arrivent à tisser des liens et qui ne sont pas du tout des enfants solitaires et peu sociables. Et par contre, 36,8% déclarent avoir un ami qui a des douleurs chroniques. Et ça, je pense que c'est absolument pas hasardeux. Et ça rejoint les antécédents de douleurs chroniques dans la famille aussi, chez les parents proches. Mais je pense que c'est absolument pas représentatif de la réalité d'avoir un ami qui a des douleurs chroniques. 28% déclarent avoir des conflits avec les amis, hein, ce qui semble à peu près correct aussi. 58% déclarent qu'il existe des conflits dans la famille. Et par contre, donc, quand on a posé cette question-là aux patients, on leur demande des conflits graves, importants. Et donc là, on a quand même plus de la moitié de la cohorte qui déclare qu'il y a des problèmes familiaux à type de conflit qui ne concernent pas forcément les patients. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, ça ne les concerne pas directement. C'est des conflits entre les parents ou entre les parents et les grands-parents, par exemple, ou entre les oncles et les tantes. La grande majorité ne déclare pas de consommation de toxiques. On l'avait rajouté parce qu'on a un patient dans notre cohorte qui est polytoxicomane et qui déclare finalement qu'il est que sa consommation de toxiques complètement pathologique est liée finalement à cette douleur chronique. Hein. Donc tout a commencé avec une consommation accrue d'opiacés. Donc c'est une polytoxicomanie extrêmement grave. Donc finalement, lui ne représente pas la majorité de nos patients, hein, qui ne déclarent pas de toxicomanie, surtout pour nos adolescents, peut-être pas les petits. Mais on pourrait se dire aussi que cette surconsommation, parce qu'il y a une surconsommation d'antalgiques quand même chez nos patients, ne donne pas lieu a priori à une surconsommation de toxiques. Alors bon, là, mon graphique est tout moche, il est mal passé. C'était pour vous montrer un petit peu ce que nous, on proposait. Puisque l'idée du protocole, c'est qu'on rencontre les patients pour la première fois, on décide qu'on va les inclure, on leur propose de revenir une deuxième fois et on fait remplir du coup toutes les données de notre dossier médical. La troisième fois, donc c'est la fameuse visite dont parlait Anne-Marie tout à l'heure. Donc on fait une journée de bilan pour les enfants et leurs parents. On se revoit ensuite une autre fois un mois après pour la restitution du bilan psychologique. Et à l'issue de cette restitution, c'est là qu'on va proposer des soins. On ne les propose pas avant. Donc on essaye d'aller rapidement quand même sur toute cette première phase. Et donc on va proposer des orientations thérapeutiques tout en sachant que les patients qu'on voit, ils ont déjà des traitements. On a vu avant qu'ils avaient déjà des traitements médicamenteux. Ils ont déjà essayé pas mal de choses. Donc on essaye de réorienter la prise en charge. Et donc on voit que le premier bâton, c'est le bâton hospitalisation, puisqu'il nous est arrivé assez fréquemment de proposer des hospitalisations à l'issue de notre bilan, après des hospitalisations qui sont plus ou moins réalisables ou réalisées ou envisageables par les familles et les patients qui bien souvent ont beaucoup beaucoup de mal à envisager une séparation. pendant ces hospitalisations. Et les hospitalisations, on les demande très très fréquemment dans des centres comme Neufmoutier, où Monsieur Girardon viendra présenter le travail qu'ils font avec les adolescents. On propose aussi souvent une prise en charge psy, bien évidemment. Alors je l'ai mis de façon générale, thérapie, psychiatrie, etc. Puis après, donc vous voyez toutes les prises en charge bien connues dans la médecine de la douleur. Et puis après, il y a les traitements proposés qui ressemblent de toute façon aux traitements qui ont déjà été tentés et on ne fait que conserver les molécules qui fonctionnent. Voilà, je vous remercie beaucoup.